Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment à la librairie Mola. Merci à Frédéric Lordon et à Sandra Lucbert qui viennent nous présenter leur dernier livre publié l'année dernière qui s'intitule « Pulsion ». Sandra Lucbert est une écrivaine française. Elle est l'autrice de plusieurs romans et formes littéraires hybrides qui interrogent les formes contemporaines de domination sociale, économique et linguistique. Son travail explore notamment comment le capitalisme néolibéral investit le langage, les subjectivités et les structures sociales. Frédéric Lordon est économiste et philosophe, directeur de recherche au CNRS. Il s'inscrit dans une tradition de pensée critique, influencé ou informé par Spinoza, dont il participe à l'actualisation. Il est connu pour ses analyses du capitalisme contemporain, de la manière dont les affects et les passions structurent les sociétés et les économies, en rupture très largement avec les théories néoclassiques centrées sur l'individu rationnel. Dans leur dernier livre, écrit à quatre mains, et c'est ce que je disais tout à l'heure en coulisses, on sent vraiment à la lecture l'écriture à quatre mains et la manière dont les deux écrivains se sont nourris mutuellement. Pulsion, donc, qui s'intitule Pulsion, Frédéric Lordon et Sandra Lucbert proposent dans un geste théorique à la fois ambitieux et stimulant une relecture spinoziste de la psychanalyse par une forme très originale, mêlant étroitement narration et élaboration conceptuelle. L'ouvrage explore la généalogie dynamique du psychisme à travers le personnage central de Modus, dont le nom renvoie explicitement à la notion spinoziste de mode, c'est-à-dire ici hein, l'individu humain. Cette déterritorialisation de la psychanalyse agit comme un opérateur puissant. Elle permet de rompre avec la clôture de la psychanalyse sur ses catégories traditionnelles pour lui permettre de penser l'individu, les formations sociales et les formations sociales dont son psychisme est l'écho. Voilà, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Alors, pour commencer, pourriez-vous brièvement présenter Pulsion et revenir sur ce qui vous a conduit à entreprendre ce projet à quatre mains? Qu'est-ce qui rendait nécessaire, hein, selon vous, cette entreprise commune?
Alors, c'est moi qui commence, paraît-il. Je vais dire juste une petite chose très brièvement, puis après Sandra va vite prendre le relais. Je suis sensible au fait que tu aies parlé de geste, Pierre, parce qu'effectivement, il y avait l'intention d'un geste. Alors, lequel, pour prendre les choses un petit peu de haut, c'était de rétablir dans l'espace intellectuel les manières de penser de la psychanalyse qui s'en sont absentés depuis maintenant quasiment quatre décennies. Si vous voulez, dans les années 60-70, la psychanalyse, avec le marxisme, avec le structuralisme, c'était le viatique intellectuel de l'honnête homme de l'époque. On ne pouvait pas prendre part au débat intellectuel sans avoir un minimum de culture en la matière. Et puis, tout ça est passé à la trappe. La psychanalyse ne l'a pas volée. Je veux dire, elle a été elle-même hein, l'opératrice de son propre escamotage et de sa propre disparition. Donc les gens ont pris la psychanalyse en grippe et il y avait de bonnes raisons à ça. Alors pour vous dire à quel point ils l'ont prise en grippe, nous on a eu une expérience qui était extrêmement parlante à cet égard. C'était lors du lancement du livre. Et à la fin, il y a une petite bande de jeunes gens, 5 ou 6, qui viennent nous voir, qui nous disent un peu emprunté, mais c'était très charmant. Vous savez, nous, on est de gauche radicale, enfin bon, d'extrême gauche, etc. Bah, c'est très bien. Mais alors, vous savez, quand on va dans nos groupes politiques respectifs et qu'on nous demande ce que nous faisons et que nous disons que nous sommes psychanalystes, c'est des jeunes psychanalystes, on nous regarde aussitôt de travers. C'est un truc quand même sensationnel, hein, parce que il y a un certain temps, la psychanalyse avait appartenu à ce que, avec quelques grandiloquences, on pourrait appeler le camp de l'émancipation. Et ben, le camp de l'émancipation, la prise en grippe, et pas qu'un peu, quoi. Et je le redis, hein, avec d'assez bonnes raisons. Donc, nous, ce que nous considérons, c'est que la psychanalyse est indispensable. Le point de vue de la psychanalyse, un point de vue de la psychanalyse, est indispensable pour comprendre quelque chose au monde humain, social, social et historique. Alors, évidemment, pour restaurer la place de la psychanalyse, il fallait procéder à une espèce d'opération de purgation, quoi, et de prendre les uns après les autres tous les lieux de conflit, tous les lieux où ça s'était mis de travers. Et c'est en partie ce que fait notre livre. Une opération, étant entendu qu'une opération de purgation, c'est pas juste des bonnes paroles, et ça passait nécessairement par une reconstruction, et même une reconstruction de très grande ampleur. Pour aboutir à une finalité particulière sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir, qui est de remobiliser la psychanalyse pour dire des choses sur le monde contemporain, sur le monde socio-historique et politique. Vous voyez, d'une manière... comment dire, on s'est aperçu que, de nouveau, la petite conversation de dé à coudre de la gauche radicale bruit de psychanalyse. Et on commence à en reparler. Alors, on a l'outrecuidance de croire qu'on n'y est pas pour rien, et même si on se trompe complètement, dans tous les cas, ça nous fait bien plaisir. Voilà.
Je complète un peu. Je vais essayer de donner des exemples de ce qu'on a cherché à faire, parce que c'est effectivement une construction plus vaste. Ici, il s'agit du premier tome d'un ensemble qu'on a ramassé sous le sous-titre « Capitalisme, fascisme et pulsionnalité ». Donc, en l'occurrence, vous l'entendez, on a souhaité réfléchir aux prises pulsionnelles qui sont celles du capitalisme sur nous et également de sa forme dégradée fasciste lorsque le capitalisme entend pousser son avantage en déviant pulsionnellement la colère de ceux qu'il pressurise vers des cibles commodes, les racisés, les LGBT, les femmes. Je ne m'étends pas davantage là-dessus, la question étant simplement pour nous d'essayer d'amener une nouvelle forme de psychanalyse qui serait une psychanalyse consciente des rapports sociaux et capable de s'articuler dans l'intelligence qu'elle propose des situations à leur compréhension. Donc, je voudrais vous donner trois exemples de situations, pour que tout ceci ne reste pas abstrait, de situations très contemporaines, qu'on ne peut pas comprendre à moins de croiser une approche psychanalytique remaniée telle que la nôtre, telle que celle qu'on a essayé d'engager, et une approche sociale historique plus classique, avec les outils de l'analyse politique qu'on connaît. Ces trois vignettes, il y en aura une je vais commencer aux États-Unis, hein, noblesse oblige, puisqu'on a à la tête des États-Unis en ce moment un personnage qui donne beaucoup à penser du côté de l'outillage psychanalytique à revoir, qui est Donald Trump. Comme vous le savez, le jour du No King's Day, aux États-Unis, 7 millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la fascisation manifeste du deuxième mandat de Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La réponse du président des États-Unis à ce mécontentement massif, on parle de 7 millions de personnes, a été quand même assez sidérante, peut-être que vous vous en souvenez. Il s'agissait d'une vidéo conçue avec une intelligence artificielle dans laquelle on voyait Donald Trump en personne aux commandes de l'avion de Top Gun, vous savez, le film avec Tom Cruise, avec la musique de Top Gun en fond de toute cette scène, revêtu de l'uniforme de Tom Cruise aux commandes de son avion, avec une seule différence, c'est qu'il ne portait pas un casque d'aviateur, mais une couronne, en réponse directe au mécontentement de la population. Et deuxième réponse directe à ce mécontentement, que faisait le roi Trump aux commandes de son avion de chasse ? Il larguait des salves d'excréments sur la population américaine venue manifester son désaccord avec la politique qu'il mène. Alors évidemment, c'est une scène assez sidérante. On commence à être habitué avec Donald Trump, mais le président des États-Unis qui se représente en train de jeter du caca sur sa population parce qu'elle est en désaccord avec sa politique, c'est quand même quelque chose qui a laissé tout le monde tout à fait sidéré, sauf à entraîner l'éternelle redite du détail de la vidéo où, formule qui ne signifiait rien en l'occurrence, à redire et redire, il est fou. Précisément ici, il faut croiser des outils d'analyse pour pouvoir avoir une intelligence quelconque de cette situation. Quels outils ? Ceux de la macroéconomie, ceux de l'analyse politique et ceux de la psychanalyse. Si on n'a pas les trois ensemble, on n'a pas d'intelligence de cette situation et on ne comprend pas du tout et on est renvoyé à la folie comme une sorte de boîte noire et incomprise. Le premier facteur, donc, il est macroéconomique, c'est la transformation des structures du capitalisme en 30 ans, ce qu'on a appelé la mondialisation, qui a donné au capital des latitudes stratégiques sans précédent, qui lui permettent d'arbitrer concurrentiellement, toujours en sa faveur, et de faire chanter les territoires. Parce qu'il y a eu des déréglementations fiscales, juridiques, réglementaires, commerciales, industrielles, qui lui permettent donc d'imposer, de tout exiger de tout imposer et de tout obtenir en faisant chanter les territoires au risque du désinvestissement. Vous entendez parler de ça tous les jours. Ceci a installé le capital et les fondés de pouvoir du capital dans une position pulsionnelle particulière, dans une mise en régime de la pulsion. C'est un des concepts qu'on propose dans notre livre particulière, c'est-à-dire la satisfaction pulsionnelle inconditionnelle. Il y a ici à comprendre que, par le biais d'une transformation des structures économiques, l'habitude pulsionnelle des capitalistes est devenue la possibilité de tout obtenir sans jamais entrer en discussion avec des altérités. C'est la première chose. La deuxième, vous la connaissez tous et toutes, c'est le régime présidentiel américain qui donne des pouvoirs incommensurables à Donald Trump, que par ailleurs il accroît depuis le retour au pouvoir qui est le sien, puisque, comme vous le savez, il détruit tous les contre-pouvoirs méthodiquement. Et la troisième, c'est un angle strictement psychanalytique celui-là, qui nous vient de Melanie Klein, une psychanalyste des enfants très connue, j'imagine que vous en avez tous et toutes entendu parler, qui a beaucoup travaillé sur les strates de la psyché dans lesquelles précisément reviennent les individus qui sont soudainement mis en position de tout exiger sans jamais entrer en discussion avec des altérités, sans jamais passer de compromis avec elles. Cette strate, elle l'appelle la position schizoparanoïde du nourrisson, et c'est exactement le tableau que nous donne Donald Trump. Le nourrisson à cette époque-là, nous dit Melanie Klein, c'est celui qui se sent, le nourrisson qui se sent omnipotent, source de tout ce qui lui arrive de bon, et qui ne considère l'extérieur que sous l'espèce d'une agression à détruire. Or, qu'est-ce que le nourrisson a à sa disposition pour détruire l'extérieur qui lui disconvient ? Eh bien, une seule chose, c'est précisément déféquer. Ce sont ses excréments. Et c'est ce que Melanie Klein raconte. Il y a toute une activité du nourrisson imaginaire pour repousser ce qui lui déplaît à l'aide de la seule arme dont il dispose, à savoir son caca. Et c'est ce que nous montre aujourd'hui le président des États-Unis sous l'effet d'une double transformation structurelle, macroéconomique et politique. Donc vous voyez, il y a à comprendre comment des effets structurels de grande ampleur produisent une mise en régime de la pulsion qui, à la fin, nous met un personnage comme ça à la tête des États-Unis. Deuxième vignette, cette fois-ci, je reviens en France. C'était en juin 2024, dans la 21e circonscription du Nord. Dans cette circonscription, des gens ont appelé les pompiers parce qu'ils étaient dans une situation de détresse, comme on peut imaginer. Les pompiers arrivent. Parmi les pompiers, il y a un racisé. Les gens renvoient les pompiers au cri de « dehors les bougnoules », je cite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une situation qui ne peut pas se comprendre non plus simplement avec une analyse sociale historique. On ne peut pas simplement dire la crise organique du capitalisme a conduit le capitalisme à se dégrader en fascisme, à indiquer des cibles commodes qui permettent de détourner la colère des causes réelles de la déréliction. Il faut ajouter toute une explication qui nous permette de comprendre comment des gens peuvent renoncer à leur persévérance matérielle la plus évidente, à se faire secourir alors qu'ils sont en détresse physique, pour le bénéfice psychique manifeste de pouvoir injurier de manière raciste des individus qui sont venus à leur secours. Là aussi, sauf à croiser, on ne peut pas avoir d'intelligence de la situation. J'en dis une dernière. Oui. Dernière vignette, ça permet de passer un peu en revue les différents rapports sociaux. Cette fois-ci, ce serait sur le genre, le rapport social de genre. Donc, vous vous souvenez tous et toutes du procès Mazan. Je rappelle, 120 hommes ont été déclarés coupables de viol sur la personne de Gisèle Pellicot, qui avait été préalablement sédatée par son propre mari. Au moment même du verdict du procès Mazan, en Allemagne, un canal de discussion Telegram a été démantelé sur lequel 50 000 hommes, pas 120, 50 000 hommes, échangeaient des tuyaux pour sédater tranquillement leur compagne et les violer pendant la nuit. Alors là, on assiste manifestement à l'apparition de caractères systémiques de l'organisation de genre dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de la binarité de genre patriarcale, de la division en un genre homme et un genre femme, dont ici les prérogatives respectives apparaissent très nettement. Il apparaît très nettement avec le caractère massif qui dit le caractère normatif systémique de ce que je suis en train de décrire, que dans la position homme, dans la place homme, il existe une prérogative, activable ou non, mais de plus en plus activée, qui consiste à pouvoir traiter les personnes assignées au genre femme comme des objets à disposition, c'est-à-dire qui consiste à pouvoir dénier leur altérité. Donc, ici encore, si on ne croise pas une analyse en termes d'analyse des structures, celle du patriarcat, et une analyse en termes de pulsionnalité, de relation d'objet, comme dirait la psychanalyse, autorisée dans un cas et dans l'autre, on ne peut pas comprendre comment de telles situations arrivent, et on est reconduit à l'éternel étonnement de ceux qui pensent que c'est une anomalie. Et je voudrais citer justement un exemple de mésusage, à notre avis, de la psychanalyse, un mésusage que nous appelons le psychanalysme, par une historienne de la psychanalyse que sans doute nombreuses personnes ici connaissent, qui s'appelle Elisabeth Roudinesco. À l'époque du procès Mazan, elle s'est fendue d'une tribune dans Le Monde pour contester la lecture féministe du procès, qui était celle peu ou prou que je viens de donner, sauf que j'y ai ajouté la question de la pulsionnalité, en disant « mais non, le procès Mazan ne nous dit rien du patriarcat, parce que ces hommes, je cite, ne sont pas des hommes normaux, ce sont des pervers ». Sauf qu'Elisabeth Roudinesco ne peut pas rendre compte ici du caractère massif de cette situation. Ce ne sont pas deux hommes qui se trimballent par-ci, par-là et qui font ça. Ici, on a des masses, des milliers d'hommes qui se réunissent pour s'organiser de cette manière. Est-ce que de l'autre côté, on voit des femmes se comporter de cette manière? Absolument pas. Peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais jamais on ne voit apparaître d'organisation de ce type par des femmes qui, par exemple, se rejoindraient sur des réseaux de discussion pour sodomiser pendant leur sommeil leur mari ou leur compagnon qu'elles auraient préalablement endormi. Donc, on voit bien que il ne s'agit pas de la nature des hommes ou des femmes, bien entendu. Il s'agit ici du rapport social qui construit le genre homme et qui construit le genre femme. Et il faut compléter l'analyse d'Elisabeth Roudinesco, qui, à n'avoir aucune lecture de la situation des structures sociales, finalement manque le point. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est non pas « ce sont quelques hommes qui ne sont pas représentatifs », mais au contraire, manifestement, la perversion fait partie des autorisations incluses dans la place homme. La perversion, j'en donne une définition rapide ici, au sens de la psychanalyse, c'est précisément la possibilité de dénier l'altérité de l'autre. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans tous ces cas. Donc, vous voyez, le principe de ce qu'on a essayé de faire, c'est de rétablir un appareil de la psychanalyse qui lui permette de ne plus faire ce genre d'erreur, qui lui permette d'être au service d'une lecture des situations sociales historiques qui accroît notre intelligence de celle-ci au lieu de nous faire passer à côté. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, très, très clair au fond, et le geste que vous essayez de faire dans ce livre, qui consiste en effet à éviter de faire de la psychanalyse un levier de réduction au psychisme individuel, mais de penser à travers et grâce à elle les structures, et d'en faire au contraire un levier de critique sociale. Néanmoins, justement, j'aimerais revenir au titre qui est « Pulsion ». Et à la raison pour laquelle vous avez choisi de le mettre au singulier, parce qu'on pourrait égrener les différentes pulsions, Eros, Thanatos, etc. Et vous le faites, et vous expliquez pourquoi vous ne souhaitez pas multiplier les pulsions et parler de pulsions au singulier. Alors, comment définissez-vous la pulsion, et en quoi la conceptualisation qui est la vôtre se distingue-t-elle, ou rejoint, et se distingue-t-elle à la fois des conceptualisations classiques de la psychanalyse freudienne et lacanienne?
Eh bien, elle s'en distingue par le geste inaugural. Freud, et Lacan corroborera ou ratifiera cette manière de faire, Freud postule la pulsion. Il dit hein, « il y a ». C'est une intuition absolument incroyable. Hein. Mon point n'est pas de revenir là-dessus. Mais c'est une intuition qui se donne la forme de la pure postulation. Double postulation au demeurant, il y a la pulsion et elle est sexuelle. Alors nous faisons tout autre chose, mais nous faisons tout autre chose adossé à tout l'appareil théorique spinoziste. Nous réengendrons la pulsion, nous dérivons la pulsion. Et ceci selon la méthode de pensée de Spinoza, qui est de engendrer selon l'ordre géométrique, dit-il. Il faudrait comprendre adéquatement ce que signifie géométrique dans la tête de Spinoza et dans ses écrits, mais entendez ici qu'il s'agit d'une dérivation apodictique. Voilà. Spinoza pose des définitions, des axiomes, et puis il enchaîne les conséquences les unes après les autres. Bon, c'est cette méthode-là que nous avons adoptée, et nous réengendrons donc la pulsion à partir d'un événement qui n'est tout de même pas peu de choses, mais auquel le spinozisme, celui de Spinoza, mais celui de ses commentateurs également, a prêté remarquablement peu d'attention. Et cet événement, c'est la naissance. Alors là, la naissance, ça, par contre, la psychanalyse s'est penchée dessus, et pas qu'un peu, et a raison. Car c'est effectivement ce que je vais dire aura l'air d'une tautologie, mais il n'en est rien. C'est l'événement le plus important de la vie, et il s'ensuivra des conséquences pour toute la vie, n'est-ce pas? Donc, nous avons organisé notre dérivation conceptuelle à partir de cet événement de la vie, l'arrivée à la vie aérienne. Voilà. Bon. Alors, évidemment, cet événement est d'une terrifiante violence. Odorang parlera de traumatisme de la naissance. Freud, au bout d'un moment, récusera le mot, mais conservera l'idée. Tous les grands psychanalystes sont d'accord à ce propos. Il suffirait de lire les livres de Pierre Aulagnier ou ceux de Winnicott qui résument en quelque sorte l'événement de la naissance de la manière suivante. Mourir, 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 dit-il, ce qui normalement doit frapper les esprits. Et en effet, c'est bien de cela qu'il s'agit. Car la naissance est une transition d'une violence tout à fait inouïe entre deux états, deux régimes d'existence dissemblables au possible. Le nouveau-né passe directement et sans transition d'un état de félicité et d'homéostasie caractérisé par la continuité, c'est un point très important, hein, la continuité du nourrissage et de l'enveloppement amniotique. Continuité du nourrissage et de l'enveloppement tel que la persévérance n'est quasiment plus un problème. La persévérance est aproblématique, si vous voulez. Pour ainsi dire, il n'y a pas d'effort à faire, quoi. La chose est là. Et le voilà précipité dans le monde aérien. Ses poumons sont déchirés par la première arrivée d'air. Et comme vous savez, l'espérance de vie d'un nourrisson laissé à lui-même est dans les 24 heures, quoi, mais pas beaucoup plus. Ce qui signifie que d'un coup, le nourrisson est confronté aux enjeux de la persévérance, mais sous leur forme la plus haute, c'est-à-dire sous la forme de la vie et de la mort, de la survie pure et simple. Comme on sait, en général, il y a une puissance adulte ou un agencement de puissance adulte qui viennent l'en rescaper. Mais enfin, la brutalité de l'événement ne peut pas laisser des traces, et en particulier une qui est une espèce de regret abyssal de ce qui a été perdu. Ce qui a été perdu, cette condition anténatale, cette condition de la félicité. Mais qui est, et alors, à partir du moment où cette chose-là a été perdue, alors tout l'effort du conatus, tout l'effort réactionnel du conatus, va tendre à essayer de la retrouver. Mais de quoi s'agit-il? Quel est ce qui a été perdu? Il est indéfinissable, il est inidentifiable, il est insignifiable, et pourtant, l'effort pour le retrouver va être impérieux. Tout le conatus, durant toute la vie humaine, va être orienté vers cette espèce de retrouvaille qui, évidemment, n'a pas la moindre chance de survenir jamais. Voilà. Alors, cette espèce de chose complètement, au contour complètement flou, mais vers laquelle le petit mode à peine né va s'efforcer, et pas seulement à peine né, mais pour toute sa vie, nous l'avons appelé l'objet zéro. Évidemment, c'est un objet limite, c'est un concept limite d'objet, c'est un objet non-objet d'une certaine manière. C'est le fameux « ce », c'est le « ce » qui a été perdu et le « ce » qui doit être retrouvé. Eh bien, notre définition de la pulsion, c'est celle-là. C'est la première vectorisation, c'est la première détermination postnatale du conatus en vue de cet objet zéro à retrouver, quand bien même on n'ait pas la moindre idée de ce en quoi il consiste. Voilà. Alors, ça fait une définition, plus exactement, ça fait une définition conceptuelle qui procède par dérivation, par engendrement apodictique, d'où suivent plusieurs conséquences. La première, c'est que vous voyez bien que dans tout ce que je viens de vous raconter, il n'entre absolument pas que la pulsion soit essentiellement sexuelle. Évidemment, sexualisable, elle sera, mais et même sexualisée, elle le sera très rapidement. Mais elle n'est pas en son essence sexuelle, et il s'ensuit surtout, mais c'était ça l'objet de la question de Pierre, qu'il n'existe qu'un terme pulsionnel unique. Là où le freudisme et la psychanalyse plus largement ont procédé à une démultiplication des termes pulsionnels. La pulsion de vie, la pulsion du moi, la pulsion sexuelle, la pulsion d'autoconservation. Et évidemment, la très célèbre pulsion de mort, à laquelle nous faisons un sort comme toutes les autres. Alors j'imagine, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais ça sera sûrement un énoncé qui sera bien fait pour les agresser beaucoup, ce dont nous nous excusons. Et évidemment, il est hors de question que nous puissions entrer dans le détail de la démonstration à propos de la pulsion de mort dont nous récusons l'existence purement et simplement. Sachez que pour faire le travail, il nous a fallu une heure et demie de séminaire et un article qui n'est pas encore tout à fait terminé et qui fait déjà ses 20 bonnes pages. Donc, vous voyez, c'est du chantier tout de même. Mais voilà, une pulsion qui n'est pas sexuel mais qui sera sexualisable et qui a été engendré apodictiquement plutôt que d'être postulé selon le geste freudien qui sera ratifié tel quel par tous les autres psychanalystes.
Merci. Alors, je reviens peut-être pas sur Spinoza, parce que tu as déjà expliqué hein, comment, au fond, la réinterprétation et très largement aussi la transformation des catégories de la psychanalyse s'est faite sous votre plume par et avec Spinoza. Un point qui me semble intéressant et vraiment spécifique à cet ouvrage qui en fait l'identité, c'est qu'au fond, il se construit comme une narration. Mais une narration théorique, évidemment, mais une narration quand même, qui retrace la constitution progressive du psychisme d'un personnage générique, hein, qui est Modus, figure spinozéiforme, si je puis dire, dont on suit le développement de la vie, depuis la vie intra-utérine, tu l'as rappelé, jusqu'à l'enfance, et en effet, c'est un coatif, on attend la suite. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une suite en préparation, en effet. Et donc, cette narration permet d'explorer en cinq temps la micro-histoire de l'élaboration des structures psychiques. Donc je mesure le caractère presque impossible de la question, mais est-ce que vous pourriez nous raconter, alors soit quelques épisodes, soit l'histoire de Modus, et préciser au fond ce qu'elle permet de penser ou de voir, peut-être là encore que la psychanalyse freudienne et lacanienne auraient laissé dans l'angle mort.
Je fais une petite introduction avant de répondre directement à ta question, la question étant pourquoi est-ce qu'on a utilisé la narration ? En réalité, le type de psychanalyse qu'on veut promouvoir, c'est une psychanalyse matérialiste. Ça veut dire que c'est une psychanalyse qui installe un double mouvement entre les structures psychiques et les structures sociales. C'est une psychanalyse qui comprend que les structures psychiques se font dans et par les rapports sociaux et réciproquement que les structures sociales puisent dans la pulsionnalité et définissent des autorisations pulsionnelles et des issues psychiques qui leur sont propres, qui sont propres à chacune de ces formations sociales. Donc notre enjeu était de produire une intelligibilité accrue, aussi bien à l'échelle des individus qu'à l'échelle collective, du fait de ce double mouvement. Il fallait produire cette introduction pour dire si la structure psychique se fait dans et par les rapports sociaux, la question suivante, c'est comment ? La question, c'est comment les rapports sociaux arrivent-ils aux individus ? Comment les rencontre-t-on ? Comment décide-t-il d'une configuration psychique et selon quel principe de variabilité ? Parce que vous voyez bien qu'un rapport sociaux équivalent dans le même corps social, en fonction de l'endroit où on est placé, en fonction des premiers adultes à qui on a affaire, etc., on ne rencontre pas du tout les rapports sociaux sous la même forme. On ne rencontre pas le rapport de parenté au coin de la rue. On rencontre le rapport de parenté tel que sa propre famille l'a fait exister pour nous, par exemple. Donc, la seule solution pour raconter les processus, c'est de passer par une narration, par une histoire. La question sera donc, comment est-ce qu'on rencontre le langage ? Comment est-ce qu'on rencontre l'altérité ? Comment est-ce qu'on rencontre sa propre image ? Comment est-ce qu'on rencontre le rapport de genre dont je viens de parler ? En l'occurrence, toutes ces choses, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on a toujours l'impression qu'elles sont toujours déjà là, mais absolument pas. Elles sont extrêmement contingentes et elles tiennent à la formation sociale dans laquelle on est installé. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre, comme tu l'as dit, en cinq temps, l'histoire de ces rencontres progressives et de la structuration psychique induite par ces rencontres dans la situation de notre petit personnage, donc comme tu l'as dit, que nous avons appelé Modus, parce que le mode fini humain, ça faisait un nom de personnage pas très commode à manier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner ce nom Modus. Modus en latin, c'est un nom masculin, mais en fait, notre personnage, il est épicène. Il n'est ni masculin ni féminin. Ça fait partie des propositions de notre opération conceptuelle, puisque nous entendions faire apparaître ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'assignation de genre telle qu'elle est définie dans le patriarcat. Donc il fallait que le personnage existe indépendamment d'elle. Et ce petit personnage, c'est vraiment un personnage, porteur de la pulsion. C'est lui qui, ici, va rencontrer les rapports sociaux et subir des configurations progressives à mesure de cette rencontre. Si l'histoire se passe en cinq temps, c'est parce que, à chaque fois, nous avons essayé d'établir les grandes étapes de formation du rapport à l'extérieur et de la représentation de soi du petit modus. C'est-à-dire ce sont les choses qui progressivement se construisent avec une saisie de l'histoire qui tient essentiellement à comprendre comment progressivement, par la rencontre des rapports sociaux, le petit mode se structure. Mais quand je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la rencontre des rapports sociaux, en fait, c'est par la rencontre des rapports sociaux via les premiers adultes qu'il a rencontrés. Et nous, ces premiers adultes, j'en dis un mot parce que c'est une réponse aussi un peu à la question que tu posais tout à l'heure à Frédéric et qui a parlé de géométrie. La géométrie de Spinoza, nous, on l'utilise littéralement dans ce récit. C'est pour ça que c'est un récit d'aventure, mais un récit d'aventure conceptuel. On utilise la méthode de Spinoza, c'est-à-dire qu'on essaye de définir des instances et de dégager des opérations générales en essayant autant que possible de ne pas tomber dans les présuppositions propres à notre ordre social. Pour faire ça, par exemple, on essaye d'observer la relation qui se passe entre le petit nourrisson, donc qui s'appelle Modus, et les adultes qui s'occupent de lui, que nous avons appelé la chose près du berceau. La chose près du berceau, c'est une expression qui me vient d'un psychanalyste qui était mon professeur de métapsychologie à l'université Paris 7, à Paris, qui s'appelle Paul-Laurent Hassoun. En vérité, on a détourné l'expression, parce que Paul-Laurent Hassoun, par cette expression, voulait dire la mère. Nous, on ne veut pas du tout dire la mère. Nous, on veut vraiment dire l'instance qui s'occupe de Modus. Ce qui veut dire qu'on ne préjuge pas de la forme de la chose près du berceau. La chose près du berceau peut être un adulte, peut être deux adultes. Ces deux adultes peuvent être assignés à des genres différents, assignés au même genre. Ne pas reconnaître l'assignation de genre. Ça peut être aussi un groupe qui s'occupe de Modus, un groupe de chamans, un groupe d'élevage communiste. Ça n'a aucune espèce d'importance dans la proposition que nous faisons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer le plus ou moins de convenance de la relation entre Modus et sa chose, et c'est ce plus ou moins de convenance qui va déterminer le fait que Modus se dispose psychiquement ainsi ou autrement. Ce faisant, nous retrouvons, s'il y a des gens qui sont familiers de la psychanalyse ici, nous retrouvons les structures de la psychanalyse, les structures psychiques de la psychanalyse, avec cette différence que la psychanalyse parle de structures psychopathologiques très souvent, tandis que nous, on parle de structures psychiques. C'est-à-dire que, autre réponse, la narration, c'est un outil extraordinaire pour dépathologiser la structuration psychique telle qu'on l'observe. C'est-à-dire, nous racontons comment, dans les circonstances rencontrées, le mode fini humain, modus, se dispose ainsi pour pouvoir persévérer dans son être. Et qu'il n'y a aucune raison de décider que telle ou telle solution psychique, on appellera ça une stratégie, nous, dans notre proposition, telle ou telle stratégie du Conatus, sera toujours la bonne dans la mesure où il n'avait pas le choix. Donc, on a aussi utilisé la narration de cette manière-là pour, en quelque sorte, continuer le geste de Deleuze et Guattari dans l'anti-Oedipe, mais avec des outils très très différents des leurs, c'est-à-dire sortir de la défectologie. Nous voulions que notre proposition soit entièrement positive au sens de Spinoza, c'est-à-dire pas optimiste, mais non normative. Que chacune des structures psychiques soit présentée de la même manière, enfin, comment dire, à chaque fois comme la seule solution possible pour la personne et certainement pas comme quelque chose de dévalué ou au contraire d'héroïsé. C'est en cela qu'on se distingue par exemple de Deleuze et Guattari, parce que eux, pour sortir de la défectologie, ils ont héroïsé la schizophrénie et ils ont transformé la névrose en solution pathétique de suiveur de l'ordre social, etc. Ils ont retourné le système normatif de la psychanalyse. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On n'héroïse personne, on ne propose aucune dévalorisation de qui que ce soit. On essaye de proposer le déroulement de comment ces solutions se construisent en 5 temps. Donc, tout le monde passe par les 5 temps. Nous ne sommes absolument pas dans un étapisme comme dans les textes de Freud que peut-être certains et certaines d'entre vous ont lu, où il y aurait une régression si on en reste au stade 2, ou alors un peu d'évolution, un manque d'évolution si on ne va pas jusqu'au stade 5. C'est absolument pas ça. Tout le monde passe par les 5 étapes, mais personne n'y passe de la même manière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dégager ce qui se joue dans chacune de ces étapes. Après, quant à les raconter, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que là, on n'en finira pas, quoi.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est le projet est très clair et en effet décrit parfaitement ce qui est fait dans l'ouvrage. Et moi, je voulais revenir sur un point, c'est-à-dire qui concerne peut-être un peu l'atelier qui a présidé à l'écriture du livre. Vous venez d'horizons différents, je veux dire, l'un plutôt, ou l'une plutôt littéraire, alors bon, avec une formation en psychologie, et l'autre plutôt philosophe, économiste. Et précisément, l'ouvrage articule narration et théorie de plusieurs manières. On sent bien les rencontres, on sent que parfois ça frotte, etc. Et ça, c'est un point qui m'intéresse. Et souvent, ça produit des effets de sens et des effets théoriques. Et donc voilà, la question est de savoir comment vous avez envisagé ce travail à deux, comment ça s'est fait, qu'est-ce que ça a produit aussi, mais évidemment nous on le voit en tant que lecteur, mais vous de votre point de vue, qu'est-ce que ça a produit à votre réflexion et à votre travail d'écriture cet échange?
En fait, tu as dit il y a de la théorie et de la narration. Je pense qu'il faudrait plutôt dire la théorie se passe et dans la narration, et dans l'exposé analytique démonstratif sous sa forme philosophique habituelle. Et en fait, il y a une double raison à ça, puisque tu parles d'atelier. La première, c'est que la philosophie de Spinoza est une philosophie très particulière, c'est-à-dire elle peut s'exprimer dans l'ordre des concepts purs, comme toutes les philosophies, mais c'est une philosophie de l'immanence, c'est une philosophie de la rencontre. Donc, elle se prête énormément au réengendrement, c'est-à-dire elle se prête à la narration. C'est une particularité de cette philosophie-là, sur laquelle a insisté par exemple Alexandre Materon. Personnellement, moi qui viens de la littérature, j'ai tout de suite senti qu'ici je pouvais faire des choses, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, chez Kant ou chez des philosophes qui ont des approches très, très, très éloignées de la question de l'immanence. La deuxième raison, indépendamment de la philosophie de Spinoza, c'est effectivement, comme tu l'as dit, nos moyens respectifs. Nous pensons dans des formes extrêmement différentes. Frédéric pense dans une forme analytique démonstrative, dans l'ordre des concepts purs. Moi, je ne pense pas dans cette forme-là. La littérature a d'autres voies, et ça ne l'empêche pas de théoriser par ces voies. Et c'est aussi une des occasions qu'on a trouvées dans ce livre, parce que moi, c'est une chose que je défends dans mes livres de littérature aussi. Mais là, l'idée était vraiment de montrer que le travail théorique pouvait et devait même se jouer dans ces deux formes, selon les moments. C'est-à-dire que nous avons conçu la totalité du livre à deux, mais nous avons aussi conçu ce livre en imaginant une division du travail d'écriture seulement. On a conceptualisé ensemble et on a écrit, mais on a pensé l'écriture dès le début, quand on a conçu le livre, comme devant être réparti. Donc il y a une moitié du livre, c'est la narration que tu évoquais en cinq temps, qui s'appelle « La vie de Modus », notre personnage. Ça, c'est moi qui l'ai écrite. Les parties 1 sur la pulsion, 3 sur la métapsychologie et 4 sur l'ordre symbolique, c'est Frédéric qui s'est chargé de les écrire parce que celle-ci demande un type d'exposé qui ne s'accommode absolument pas de la narration, pour le coup. Et il y a une partie hybride, la dernière partie du livre, à force de travailler ensemble, en quelque sorte, puisqu'on s'envoyait nos parties, on se donnait des avis, etc. Donc jamais le texte n'est resté en l'état, comment dire, monadique d'un seul des deux qui serait intervenu dessus. Eh bien, un troisième auteur a fini par apparaître. C'est ça qu'on a coutume de dire. Donc en fait, il y a trois auteurs dans ce livre la partie 5, l'introduction et la coda du livre, en fait, on les a écrites dans cette espèce d'hybride qui a fini par exister à force d'écrire ensemble. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose.
Donc, au fond, pour revenir sur un point que vous avez soulevé et sur lequel vous insistez, au fond, utiliser la psychanalyse pour en faire une sorte de levier de critique sociale, et en effet, Pulsion est travaillé en sourdine, mais de façon constante, par une forte dimension politique et de réflexion sur les structures. Parce que enfin, cette question des structures me semble aussi importante, parce que c'est vrai que... la question des structures a un peu déserté au même moment avec la psychanalyse, mais pour d'autres raisons, le champ de la réflexion et de la critique sociale, je dirais. En tout cas, vous participez à redonner toute sa force à cette approche par la question des structures, mais sous un angle psychanalytique. Et donc, au fond, contre toute tendance à réifier les structures de l'inconscient en invariant, sur le modèle, au fond, du mythe oedipien, vous proposez de penser l'inconscient précisément comme une construction sociale plutôt que comme une construction privée ou comme finalement déroulant toujours la même structure privée et intime. Et donc comme un objet politique. la structure de l'inconscient est un objet politique. Et vous remontez ainsi, au fond, à la racine des institutions patriarcales, bourgeoises et capitalistes, et à leur inscription précoce dans le psychisme. Et donc, justement, on attend la suite aussi, mais on sent là que quelque chose d'une critique s'élabore de façon particulièrement puissante à partir de sa racine dans le psychisme. Et donc, pourriez-vous expliquer comment, au fond, le caractère politique et hégémonique d'un ordre symbolique s'impose très tôt à Modus ? Ça a été déjà un peu évoqué, mais ce serait intéressant d'y revenir. Et plus généralement, en quoi la pulsion, pensée de cette manière, éclaire les dynamiques du capitalisme néolibéral contemporain ?
Alors, je vais prendre la question un petit peu de biais. Je serais tenté de dire que la politique et les structures sociales sont denses dans tout le livre. En termes de mathématiques, je sais. C'est partout, c'est diffus, c'est partout dans le livre. Mais il y a un endroit, enfin, il y a plusieurs endroits où c'est spécialement prégnant. Il y a le cinquième temps de la vie de Modus où le petit gars, la petite meuf, ou justement, c'est ça la question. Hein, c'est bon, le petit négocie son articulation au rapport de genre. Bon, c'est un premier lieu de grande intensité politique. Deuxième lieu de grande intensité politique dans le livre, la question du symbolique. Parce que c'est effectivement là que là, je pense que toute la discussion et que toute la polémique est appelée à se nouer avec les psychanalystes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de symbolique ? Bon, nous, on en a une conception tout autre que Lacan qui en quelque sorte a quasiment les droits sur l'appellation du symbolique en psychanalyse. Bon, quand on en ait une conception tout autre, ça sera pas fait pour vous surprendre. En réalité, on a plusieurs vues sur le symbolique. Et celle qui nous intéresse ici, pour répondre à ta question, envisage le symbolique d'une manière qui n'est pas très éloignée de la manière kantienne. C'est-à-dire envisage le symbolique comme un transcendantal, mot compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire le transcendantal ? Le transcendantal, c'est l'ensemble des principes qui organisent notre rapport au divers empirique, qui organisent notre rapport au chaos du divers empirique, en vue d'en extraire, plus exactement, en vue de produire du sens à partir de ce divers empirique. Alors, le symbolique, entendu de cette manière, si vous voulez, institue la norme des énoncés socialement reconnus comme sensés. Alors ça, c'est une affaire qui n'est pas complètement... Oui, il y a quelques synapses qui sont en train de se dessiner en direction de Lacan, parce que les énoncés, qu'est-ce que c'est ? C'est des concaténations de signifiants. Alors la question des enchaînements, des signifiants liés, enchaînés, etc., a été une des très, très grandes questions de Lacan. À cet égard, nous, on a été très sous son influence à cet endroit-là. Bon. Eh bien, les énoncés sensés, c'est ceux qui satisfont à la norme de la concaténation correcte. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que des concaténations pas correctes. Je me demande, je ne sais plus si c'est un cas de Lacan où on l'a trouvé. Moi, il m'a toujours, c'est toi qui me l'as raconté, hein, il m'a toujours beaucoup frappé l'esprit. C'est un boulanger-pâtissier. Bon. Et alors, le boulanger-pâtissier, régulièrement, il faut aller le chercher parce qu'il est parti dans les arbres. Il est dans les arbres, il est dans les buissons, il est dans les fourrés, etc. Et on lui demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et lui, il explique le plus sérieusement et d'une certaine manière le plus logiquement du monde qu'il est boulanger-pâtissier, donc que son affaire, c'est la pâte feuilletée. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça, hein, le jeu sur le langage. Ça fait partie des choses que Lacan avait vraiment vues avec une profondeur. Donc, il fait de la pâte feuilletée, donc il va dans les fourrés. Vous voyez, c'est un énoncé qui est grammaticalement correct. Mais il concatène à l'ouest. Alors, à l'ouest de quoi ? À l'ouest de la norme sociale, de la norme symbolique. Bon. Deuxième exemple, parce que là, qui permet d'introduire quelque chose de très important pour la question que tu poses. C'est un exemple, c'est une sorte de boutade vaguement psychanalytique qui dit ceci. Tu parles à Dieu, tu pries, Dieu te parle, tu es schizophrène. Bon. Alors, évidemment, il ne faut pas le prendre davantage que comme une boutade, parce que là, il y a eu des états de la société où Dieu te parle, ne vous envoyez absolument pas dans la catégorie de la folie. Jeanne d'Arc, Dieu lui parle, mais elle n'est pas folle, personne ne dit qu'elle est folle. Par contre, on dit qu'elle est un problème. L'Église dit qu'elle est un problème, pour une raison extrêmement simple. L'Église revendique le monopole pontife. C'est elle qui a le monopole de parler avec Dieu et Dieu me parle. Sauf que de temps en temps apparaissent comme ça des agents un peu bizarres, des renonçants, des prophètes, des Jeanne d'Arc qui disent Moi aussi, j'ai le 06 du barbu. Et alors là, l'Église n'est pas du tout contente. Parce que, comme on dit en économie, hein, ça fait longtemps, hein, que j'ai lâché le morceau, tu sais, mais j'ai des restes. C'est ce qu'on appelle la théorie du monopole contesté. L'Église ne veut pas du tout que son monopole soit contesté. Et puis alors, donc, il y a eu des époques où Dieu te parle, tu n'étais pas du tout fou ou folle. Mais on pourrait aussi imaginer, hein, une époque à venir, peut-être, je ne sais pas, où je parle à Dieu, je prie, on dira, as-tu bien respecté ta prise de médicaments ? Là où on dira, bon, c'est un cas de délire, c'est un énoncé qui n'est pas correct au regard de la norme du symbolique. Qu'est-ce que je veux vous dire avec ceci ? Je veux vous dire que la frontière qui délimite la frontière de la norme, celle qui fait le départage entre les énoncés dits sensés et les énoncés dits insensés, elle varie. Elle se déplace dans le temps. Alors ça, c'était très important. Il faut avoir posé ça. La variabilité historique du symbolique pour pouvoir revenir à Lacan. Parce que là, Lacan se livre à une double malversation. La première, c'est celle qui consiste à donner du socio-historique contingent pour de l'universel invariant. Le symbolique est immarcessible. C'est l'universel anthropologique humain, de tout en l'homme, si vous voulez. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et la deuxième malversation, elle se joue autour de la question de savoir qu'est-ce que c'est finalement les principes organisateurs de cet universel et de cet invariant anthropologique. Bon. Alors là, je reviens un petit peu à Lacan. Parce que pour Lacan, le symbolique, c'est essentiellement le langage. Alors, à ce moment-là, hein, dans les années 50-60, c'est la haute époque du structuralisme. Et du structuralisme saussurien, jacobsonien, etc., qui nous a enseigné que le langage, ce n'était pas juste un système de bijection entre des mots et des choses. Ça, c'est de la dernière naïveté. Non, le langage, c'est un système de signifiants articulés entre eux par des rapports et un système qui est autonome, n'est-ce pas ? Et où les signifiants renvoyant aux signifiants, il y a une espèce de grande roue du signifiant. Le système du signifiant est marqué fondamentalement par sa circularité, qui est quelque chose que vous pouvez toucher du doigt, ça, c'est le jeu du dictionnaire. Vous cherchez le sens d'un mot, c'est-à-dire sa définition, vous ouvrez le dictionnaire, mais la définition, elle est faite d'autres mots. Alors, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous allez chercher la définition des autres mots, etc., etc. Vous voyez bien qu'il faut que vous soyez arrivé dans ce jeu-là avec un petit pactole de mots que vous comprenez pour être capable de faire quelque chose des définitions. Et sinon, vous n'en ferez rien. La grande roue du signifiant va tourner à vide. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire sortir le langage de cette circularité pour lui faire produire du sens ? Alors ici, Lacan réfléchit comme un logicien structuraliste. Il dit, il va y avoir un terme spécial, singulier, auquel tout le système du signifiant va être accroché. C'est un signifiant particulier, un signifiant spécial, Lacan dira un signifiant maître, et à la limite, et pas qu'à la limite, c'est un signifiant non signifiant, parce que c'est un signifiant qu'on construit de telle sorte que la question de ce qu'il signifie ne sera pas posée. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'il nous sort comme signifiant maître ? C'est-à-dire comme signifiant non signifiant. Phallus. Ah, non, phallus qui ne signifie rien, comme chacun sait, hein ? Alors, j'en vois quelques-uns, quelques-unes, là, qui disent, mais moi, je sais un peu ce que c'est, quand même. Et alors là, les Lacaniens arrivent et disent, non, vous ne savez pas de quoi vous parlez, ça n'a rien à voir. Vous confondez le phallus et le pénis. Le pénis, c'est l'organe. C'est Freud qui était très toqué du pénis. Hein. Mais Lacan arrive et il fait autre chose. Le phallus, c'est la fonction symbolique. Ah, c'est quand même tout à fait étrange, hein, d'avoir nommé la fonction symbolique phallus. Nous, on a plein de propositions alternatives. Alors, pour vous montrer comment ça, jusqu'où ça va, parce que vous comprenez, une fois qu'on a posé des choses pareilles, tout le bastringue est parti dans une certaine direction, hein, qui ne va plus cesser de se confirmer. Je vous ai apporté une petite citation de Lacan. Vous allez voir, c'est délicieux. Je cite, « Mis à part un petit rien insignifiant, les femmes ne sont pas castrables. » Vous me suivez ? C'est tiré d'un séminaire qui s'intitule « Ou pire ». Je dois dire que le choix du titre pour le séminaire est parfaitement adéquat, hein, si c'est d'une adéquation involontaire. Donc, vous voyez, là, c'est Lacan, c'est Jacouille la fripouille. Vous voyez, c'est vraiment, mais tu vas faire passer ça en contrebande. Non, mais, et vous voyez qu'il joue sur le double sens de signifiant, insignifiant, etc. Bon, disons les choses, ça fait partie des mochetés de la psychanalyse. Ça l'a enlaidi. des trucs comme ça. Et nous, c'est pour ça, hein, toute la reconstruction de la psychanalyse, c'est pour la débarrasser de ses mochetés, entre autres choses. Voilà. Bon, alors, ce qui apparaît en tout cas au terme de ce raisonnement, si vous voulez, c'est la chose suivante, c'est que le symbolique a des frontières variables. Et les termes directeurs du symbolique sont rien moins que neutres. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? Que le symbolique est fondamentalement politique et que, comme toute construction politique, il est l'expression d'une certaine hégémonie. C'est pas la peine que je vous dise l'hégémonie de quel groupe sur quel groupe quand il s'agit du petit rien insignifiant ou du phallus qui fait tourner le manège du signifiant, n'est-ce pas ? Bon, donc ça, c'est assez clair. Voilà, donc c'est là, nous, qu'on veut repolitiser le symbolique. Parce que dans la pensée psychanalyste, il y a le symbolique, l'universel de tout temps, et puis il y a le politique. Bon, bah, le politique, c'est la motion de censure, la buvette au Parlement, tout ça. Bon, des conneries, quoi. Bon, voilà. Non, le symbolique est politique. Il est l'expression d'une hégémonie, nous le disons. Mais évidemment, il n'est pas politique comme la buvette à l'Assemblée. Il est politique selon d'autres temporalités et selon d'autres processus de modification, puisque étant politique, donc socio-historique, il est bien clair que le symbolique, ça peut changer. Alors la question subsidiaire, dans laquelle je ne vais pas rentrer, évidemment, c'est le symbolique, l'ordre symbolique, comment ça change ? Ou puisque nous avons dit qu'il est politique, comment ça se change ? Bon, ça, c'est évidemment une grande question, hein. On a donné quelques intuitions à ce sujet dans le livre, mais ça fera évidemment l'objet de beaucoup plus ample développement dans le tome 2.
Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter sur cette belle conclusion qui nous laisse à penser. Merci infiniment pour cet entretien.